Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
L'amour rend-il aveugle au point de changer le sort de l'histoire de France ? Oui, à en croire le dernier roman de Jean-Marie Roard de l'Académie française. Dans son dernier livre, l'écrivain nous entraîne dans une histoire rocambolesque, mais tirée d'un fait bien réel, l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe en 1815. Et si l'empereur a pu s'en échapper, c'est grâce, ou à cause d'eux, la négligence de l'homme en charge de le surveiller, Neil Campbell, distrait par sa folle passion avec la comtesse Miniacci. Une relation tumultueuse qui a permis à Napoléon d'ouvrir la formidable épopée des 100 jours. C'est en tout cas comme cela que Jean-Marie Roy revisite ce moment historique dans son livre intitulé « La maîtresse italienne », en référence bien sûr à cette énigmatique comtesse Miniacci. L'histoire est décidément un inépuisable réservoir de romanesque. Pour votre plus grand plaisir, Jean-Marie Roard. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans notre studio ici à Paris, à l'Institut de France. Alors, ce livre, tout commence par un personnage, cette fameuse comtesse Miniacci, qui est très peu connue dans l'histoire, mais qui a réellement existé. Vous la connaissiez depuis longtemps, cette femme, ce personnage ?
Non, je l'ai découverte quand j'ai écrit mon livre « Napoléon l'a destinée ».
En 2012
était, voilà, qui était un essai biographique sur Napoléon. Et dans l'épisode de l'île d'Elbe, qui est l'épisode peut-être le moins connu de la vie de Napoléon, parce qu'elle est absorbée par les 100 jours, qui est, il faut dire, une épopée absolument extraordinaire, la reconquête de la France par Napoléon. Mais cette période de l'île d'Elbe est également cette évasion, est également miraculeuse. D'ailleurs, tout dans la vie de Napoléon est miraculeux. C'est extraordinaire. C'est une succession de chances exceptionnelles et aussi de malchance. Et donc, en écrivant ce livre, je m'étais rendu compte que les historiens évoquaient le colonel Campbell, donc l'homme qui gardait Napoléon à l'île d'Elbe, mais à peine la comtesse Miniacci. C'est-à-dire, il y avait deux lignes. Et c'est là où peut-être les écrivains apportent un regard peut-être... Ils sont plus sentimentaux que les historiens, et puis ils aiment les histoires d'amour plus que les historiens. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Parce qu'on parle de tout chez Napoléon, vraiment, tout a été étudié, décortiqué. Puis je me suis dit, bien, puisqu'il n'en parle pas, moi je veux en parler. Voilà. Et c'est né, si vous voulez, le roman est né de ce mystère, et plus j'ai cherché des documents sur elle, moins j'en ai trouvé. C'est-à-dire que même à Florence où elle habitait, il n'y avait aucun document. Il y avait que cette phrase extraordinaire de Pauline Bonaparte qui disait...
La sœur de Napoléon.
Si le nez de la comtesse Miniacci avait été plus long, le sort du monde eût été changé. Ce qui m'a permis de mêler, un peu comme, pardon, c'est un exemple écrasant, Aragon dans la Semaine Sainte, de mêler des éléments historiques incontestables, et en même temps... une femme dont j'ignorais tout et que j'étais obligé de créer de toutes pièces. Enfin, il y a certains éléments qui existaient, notamment la liaison. Et cette liaison, je l'ai imaginée avec peut-être une petite expérience amoureuse personnelle, enfin, comme font les romanciers, ils sont obligés de tirer en eux-mêmes, au fond, une autre réalité, essayer de la transcender et qu'elle s'insère.
Alors justement, vous vouliez parler de la comtesse Miniacci, parlons-en. On sait très peu de choses de cette femme, à part donc, cette fameuse phrase de Pauline Bonaparte que vous avez citée. On la surnomme, vous la surnommez la coqueluche de Florence. Elle est belle, elle est mystérieuse. Et sur la couverture de votre livre, il y a un tableau sur lequel on peut voir une jeune femme nue sur un drap blanc. Mais ce n'est pas la comtesse Miniacci, c'est une autre femme. Pourquoi vous avez choisi ce tableau pour illustrer votre livre ?
Parce que j'aime beaucoup Corot, parce que c'était une Italienne qui avait posé pour Corot, parce qu'elle était belle, elle était nue, et sa nudité suggérait, au fond, un peu la volupté. Parce qu'il ne faut pas se dissimuler derrière son petit doigt. Je pense que si le colonel Campbell est resté tellement attaché à cette femme, c'est qu'il y avait entre eux un lien de volupté important. Voilà. Vous savez, je crois beaucoup en matière romanesque à la suggestion. Je crois que c'est très, très important. Et il me semble que les romanciers contemporains n'en abusent pas de la suggestion. Ils vont directement raconter. Et dans le domaine amoureux, plus on raconte les ébats amoureux, et plus, d'une certaine façon, on les efface. C'est ça qui est très curieux. Parce que Vous remarquerez chez Houellebecq, par exemple, pour prendre un exemple, où il y a beaucoup de débats amoureux, eh bien, ça n'apporte pas grand-chose. Parce qu'il faut que le lecteur, lui, remplisse un peu par son imagination, parce qu'il sait très bien ce que c'est qu'une nuit d'amour, qu'il remplisse ce que lui donne l'écrivain et lui suggère. Et d'ailleurs, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Stendhal. Vous savez, dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel a pris une échelle de corde et il monte dans la chambre de sa maîtresse, Mademoiselle de la Mole, et il rentre dans la chambre, et là, il la prend dans ses bras, et il y a trois lignes de petits points. Eh bien, quand j'avais 18 ans,
ça veut tout
sur
dire.
Ces petits points, je rêvais sur tous les petits points qui étaient...
Ça veut tout dire. Je reviens à cette femme qui dégage tout un univers de romanesque. Elle est belle, elle ne passe pas inaperçue, elle fait tourner toutes les têtes, y compris celle du colonel Campbell. Un mot sur cet homme, il est anglais. Il accompagne donc Napoléon sur l'île d'Elbe pour le surveiller. Il va tomber fou amoureux de cette femme, il va délaisser sa charge pour aller s'enivrer de plein de plaisir auprès de cette femme. Et dans votre livre, vous semblez avoir beaucoup d'empathie pour ce colonel Campbell.
Oui, parce qu'il passe par tous les stades. Il a été blessé pendant la campagne de France, il a été blessé par un Cosaque qui s'est trompé, qu'il a pris pour un Français, et il est à Fontainebleau, et il est chargé d'accompagner l'empereur jusqu'à son embarquement, il va traverser la France, et là, il va voir que Napoléon va être très maltraité, il va y avoir des huées sur son passage, on va essayer de l'écharper, au point qu'il va être obligé de choisir de prendre l'uniforme d'un officier autrichien qui se trouvera être un des amants de la duchesse de Dino. Vous voyez, comme ça, tout le monde se retrouve. Donc, il a pu voir à quel point il était détesté en partant. Et là, il l'accompagne à l'île d'Elbe. Il est bien sûr fasciné par la personnalité de Napoléon. On a une image un peu sérieuse de Napoléon, mais c'est un homme très amusant, plein d'humour, plein d'esprit, de drôlerie, enfin. Et en même temps, un homme qui en impose, parce qu'il a une présence extraordinaire. Il magnétise les gens. Et donc, il va être complètement fasciné par Napoléon. Il va l'accompagner à l'île d'Elbe. Et puis, au bout d'un certain temps, vous savez, les plaisirs de l'île d'Elbe sont limités. Donc, il va aller sur la côte italienne. Et là, il va faire cette rencontre avec cette femme, ce qui va l'amener à délaisser complètement l'île d'Elbe, et Napoléon, qui est au courant de cette liaison, va en profiter pour choisir largement le bon moment pour fuir le... Mais seulement Napoléon, qui est en même temps très intelligent, a essayé de persuader Campbell que si un jour il tentait de fuir, ça serait par l'Italie, en soulevant l'Italie. Alors que ce n'était pas du tout son intention. Il voulait bien repasser par la France.
Reparlons du général Campbell. Vous décrivez à plusieurs reprises le supplice de l'amour qu'il vit. Il est jaloux de tous les courtisans qui tournent autour de cette comtesse Minacci. Vous décrivez une scène de bal où cette comtesse se met à danser avec un autre homme, le prince Orsini. Elle disparaît ensuite dans le jardin. Vous me parliez de Proust tout à l'heure. C'est un peu le même martyr que vit Swann quand il voit Odette s'éloigner de lui. On peut y faire un parallèle.
Oui, parce que vous savez, il y a une sorte d'archétype de la passion amoureuse. La passion amoureuse, c'est évidemment entre un homme et une femme. Il y a, d'ailleurs, pas seulement entre la même femme, entre deux hommes, entre deux femmes. C'est, comme disait Mauriac, il n'y a qu'un amour. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on peut croire que c'est l'amour récompensé qui provoque l'attachement. Mais très souvent, c'est ce qui provoque le plus d'attachement, c'est justement l'amour non partagé, ou pas complètement partagé. C'est-à-dire le manque. Et les femmes qui font souffrir, quelquefois, sont plus séductrices et plus affolantes que celles qui répondent à tout ce qu'on attend d'elles. Donc voilà, donc j'ai joué là-dessus, mais je pense que la raison de sa passion, c'était aussi qu'elle le trompait, elle n'était pas complètement à lui, donc ça l'affolait. Voilà,
C'était une femme assez libre.
Mais si vous voulez, ce qu'on trouve, on le trouve chez toutes les femmes fatales. Toutes les femmes fatales, ce qui est frappant chez elles, c'est à quel point leur comportement n'est pas de répondre totalement à l'attente de leur amant, mais au contraire de le frustrer.
Alors malgré ce que vous pourriez laisser penser le titre, la maîtresse italienne, Napoléon reste quand même le véritable personnage principal de ce roman. Il est l'objet de toutes les attentions.
Mais en creux. Il apparaît en creux.
Oui, oui. On va en reparler justement. Mais il reste quand même l'objet de toutes les conversations. Il est celui dont on ne peut pas prononcer le nom. C'est l'autre avec un A majuscule. En fait, on voit que même exilé, en fait, il continue toujours de fasciner tout le monde. Il reste là, il est toujours présent.
Mais vous avez remarqué, il est encore présent aujourd'hui.
Oui.
C'est ça, ce qui est inouï, c'est que de son vivant, il était archi présent et aimé. Parce qu'il faut voir à quel point il a aimé les Français. Mais les Français l'ont aimé. Ils l'ont aimé de son vivant. Ils l'ont aimé après sa mort. Il faut voir, au moment de sa mort, l'extraordinaire regain d'amour. Et puis, ils l'ont aimé à travers son neveu, Napoléon III, parce qu'ils ont voté pour Napoléon III, par nostalgie, Napoléon. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, il y avait à l'Institut, à l'Académie...
Il y a eu un colloque.
Et puis surtout, le président de la République, M. Macron, est venu et parler de Napoléon. Et il a dit quelque chose de très juste. Il a dit, nous avons tous quelque chose de Napoléon. On ne peut pas effacer Napoléon de notre mémoire, je dirais même de notre inconscient. Dans notre inconscient, il a tellement marqué les générations précédentes qu'on ne peut pas l'oublier. Alors ce qui est curieux, c'est que finalement, ce sont les... Sauf Macron et Pompidou, qui en avaient parlé également, c'est que les gouvernements se sont bien gardés de parler de Napoléon. Ils parlent de la Révolution, qui pourtant, sur le plan de l'horreur, la Révolution bat tous les records. Ben bon. Tandis que Napoléon est un peu oublié, il n'y a plus que cette petite rue Bonaparte, enfin, qui signale la présence de Napoléon, alors qu'en fait, c'est grâce à lui que nous avons pu conserver les acquis de la Révolution. Et c'est un homme qui a créé la France moderne. Créer la France moderne, en réconciliant les deux Frances. Il a réconcilié la France de la monarchie et la France de la République.
Au-delà de cette rue Bonaparte, il y a quand même beaucoup de colloques, d'hommages qui sont toujours organisés aujourd'hui autour de Napoléon.
Oui, parce que c'est en cela qu'il est parent des écrivains. Il a créé une légende. Et qu'est-ce que font les écrivains? Au fond, ils créent des légendes. Imaginez qu'est-ce que serait la guerre de Troie s'il n'y avait pas eu Homère. Qu'est-ce que serait... Enfin, on pourrait prendre tous les épisodes de l'histoire. Je citais tout à l'heure Aragon avec les 100 jours. Chaque écrivain participe à la création de la légende. Et il y a des hommes qui attirent la légende. Et ces hommes, et qui la créent. Ces hommes, c'est Jules César, Alexandre, Napoléon. Et donc, cette légende, elle naît de quoi? C'est très intéressant. Elle naît comme le petit rameau de Stendhal, vous savez, le rameau de Salzbourg. C'est une cristallisation autour de choses horribles. L'histoire est horrible. Depuis le début, jusqu'à la fin, elle est horrible. Et nous avons besoin, pour supporter l'histoire, de lui apporter un contenu légendaire. Voilà, de la magie. On met de la magie.
Un souffle.
Et participent à cette magie, justement, les écrivains en premier lieu, mais aussi les musiciens, mais aussi les peintres. C'est un ensemble, et c'est la création de la légende. Donc, les écrivains et Napoléon ont un point commun. D'ailleurs, il y a une parenté entre eux. Il faut voir que Napoléon est plus aimé des écrivains que des historiens.
Alors, cette légende, vous le disiez, elle apparaît en creux dans ce livre. Vous n'employez jamais son nom directement. Vous employez tout au long du livre d'autres formulations. L'exilé, l'autre, le grand proscrit. Pourquoi vouloir faire disparaître Napoléon.
J'ai voulu montrer qu'on était dans un roman. Donc j'ai voulu le montrer en profil perdu, en creux, parce que ça fait un peu ridicule dans un roman de dire « Napoléon dit... » Voilà. Je trouve que c'est plus fort. C'est toujours cette idée que l'art, c'est la suggestion. Et c'est pas l'exactitude, c'est la vérité. Et vous savez, en matière d'art, pour prendre un exemple, vous savez, Ingres a fait une odalisque magnifique. Vous savez, on voit son dos immense. Il a rajouté 3 côtes. Bon, alors on dit, attention, c'est pas exact. Non, mais c'est la vérité. Eh bien, en matière littéraire, c'est ce que j'essaie de faire. Je cherche pas l'exactitude, je cherche la vérité.
Et bien justement, vous en parliez déjà dans votre premier livre que vous avez dédié à Napoléon. Vous en parliez tout à l'heure, Napoléon ou la destinée, que vous avez publié en 2012. Et dans ce livre, on y découvre un Napoléon très, très humain, pétri de doutes, un Napoléon assez sombre, qui connaît très bien les échecs. Et vous dites souvent que vous préférez largement ses échecs à ses succès.
Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait animé, c'est ce qui a fait peut-être un peu le succès de ce livre, c'est que j'ai cherché Napoléon à le décrire à travers ses échecs. Et j'ai beaucoup évoqué ses échecs, qui sont très nombreux. C'est-à-dire, ce qui m'a amené, quand j'avais 18 ans, à Napoléon. J'ai échoué dans tous les domaines, dans le domaine amoureux, dans le domaine scolaire. Oui, oh oui, j'étais complètement nul, je ratais mon bac, faut pas le dire ici à l'académie, mais enfin, on croit que je suis normalien, mais pas du tout, je ratais mon bac, j'avais beaucoup de mal, et j'étais complètement fauché, je vivais dans une chambre de bonne, j'étais au bord du suicide, et un jour j'ai découvert le mémorial de Sainte-Hélène. Et là, Ça m'a donné un espoir absolument fou. Et depuis ce moment, j'en ai voué une gratitude à Napoléon. Et j'ai décidé d'un jour de faire ce livre. Mais à travers ces échecs, c'était un peu personnel, disons. J'avais le sentiment que je réparais un peu mes propres échecs. Et d'ailleurs, Jean d'Ormesson, qui s'était beaucoup amusé de cette parenté, avait écrit un article dans le Figaro Magazine. Il avait dit « Ce n'est pas une biographie, c'est une autobiographie.
» C'est vrai qu'il y a un côté un peu rassurant à voir ces grands hommes, ces grandes femmes de l'histoire, à voir être comme tout le monde finalement, être amoureux, vulnérable, fébrile.
Oui, sauf qu'il a, en plus de tout le monde, il a le génie, c'est un visionnaire, et un homme qui ne lâche jamais. Et la leçon de la vie, c'est un peu mon cas, parce que pour le bac, j'ai eu beaucoup de mal. Pour rentrer à l'académie, j'ai eu beaucoup de mal, parce que je me suis présenté 5 fois. Et vous savez, quand j'ai été élu, on m'a dit « Alors, vous êtes heureux ?» Je dis « Non, je suis inquiet. » On dit « Mais pourquoi êtes-vous inquiet ?» Je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Donc vous voyez, c'est sans fin, le doute.
On comprend vite que Napoléon, à peine arrivé sur l'île d'Elbe, en réalité, il n'a jamais eu l'intention de s'arrêter. En arrivant, il dit « ce sera l'île du repos ». En fait, pas du tout, il va faire...
Vous savez, Napoléon est un visionnaire. Il sait parfaitement ce qu'il veut, c'est laisser son image dans la postérité. Mais en même temps, c'est un pragmatique. Et quand il arrive dans l'île, sa principale préoccupation, c'est d'organiser l'île, d'arranger, de rendre service aux populations. Il va planter des arbres, il va développer le commerce du fer. Enfin, non, c'est un homme pratique.
Alors qu'il sait qu'il va partir ?
Il ne se dit pas « je vais partir », il se dit « attendons et en fonction des circonstances, je verrai ce que je fais ». Parce que les circonstances, en l'occurrence, c'est le congrès de Vienne. Et le congrès de Vienne, tous ces, le tsar et tous l'empereur d'Autriche, tous ces hommes qui sont réunis, Metternich et Talleyrand, tous ces hommes commencent par s'engueuler et par se disputer les territoires, notamment la Pologne. Donc ça pouvait tourner au vinaigre. Il pouvait se déclarer une guerre entre eux, notamment à un moment, il y a une menace de guerre entre la Russie et l'Autriche. Et donc s'il y avait eu une guerre, à ce moment-là, le statut de Napoléon changeait complètement de... Voilà. Et donc il a attendu, et c'est quand il a vu que finalement les congressistes de Vienne s'entendaient sur son dos, eh bien c'est là où il a dit « maintenant il faut partir ».
La voie est libre. Vous dites que c'est un grand stratège, mais c'est aussi quelqu'un, un homme en proie à des sentiments amoureux. L'absence de sa seconde femme, Marie-Louise, pèse beaucoup dans ce livre.
Alors est-ce que c'est amoureux ou stratégique ? Parce que chez lui, il y a le mélange des deux.
Alors,
ce qui est amoureux était aussi stratégique parce que c'était... un otage absolument formidable, parce que c'était quand même la fille de l'empereur d'Autriche. Et s'il était venu le rejoindre, c'est sûr que les Autrichiens n'auraient pas pu le maltraiter, voilà, comme ils l'ont fait. Mais il était amoureux d'elle, et en même temps, c'était un pion dans son échiquier. Voilà, c'était, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il l'avait épousée. Il ne l'avait pas épousée par amour, puisqu'il ne la connaissait pas. Il l'avait épousée pour avoir un héritier. Donc, chez lui, c'est toujours mêlé à la fois la vie amoureuse, l'intérêt, parce que ce qui l'anime, sa grande passion, c'est quand même la passion de son destin et la passion de la France.
D'où ce titre, Napoléon ou la destinée, que vous aviez choisi. Vous faites beaucoup de descriptions, de portraits, de très beaux portraits dans ce livre, notamment celui de Napoléon. Alors, en 1815, il a un peu déjà vieilli, et donc vous le décrivez comme grassouillet et dodu, comme un notaire. Et pourtant, il y a une intensité dans son regard qui va pétrifier quiconque qui le croisera. Et en fait, on a l'impression que plus que toutes les femmes décrites dans ce livre, en fait, le vrai séducteur, c'est Napoléon.
Bien sûr, c'était un homme qui en impose à tout le monde. Et d'ailleurs, les Anglais étaient fascinés par Napoléon à l'époque. Et tous les lords anglais qui passaient par l'Italie se précipitaient pour avoir une conversation avec Napoléon. Parce que c'est un homme immense. Voilà. C'est un homme, à cette époque, on considère qu'il réunit tous les génies possibles. C'est-à-dire, c'est le génie du mérite, parce que quand même, il vient de loin, hein, il vient d'une petite famille corse. Ensuite, le génie militaire, parce qu'il va s'imposer comme vraiment un général extraordinaire. C'est l'intelligence du créateur d'institutions. Il va penser la France, et il va penser la France moderne. Donc, il réunit tellement de qualités, et en plus, il est très littéraire. C'est un homme qui passe son temps à lire, et vous savez qu'il va vouloir, quand il va rencontrer Goethe, voilà, et Goethe va être fasciné. Tous les gens qui l'ont rencontré ont trouvé que c'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel, parce que justement, il est bizarrement très gentil. C'est pas du tout un homme qui essaie de vous en imposer. Non, tout de suite, il dit aux gens, alors comment vont vos enfants ? Vous voyez, il n'est pas du tout, c'est pas, il n'a pas de mépris. Il est, quelle que soit, disons, la catégorie sociale à laquelle il s'adresse, il est toujours dans la compréhension humaine. C'est un homme extraordinairement humain. Alors vous allez me dire, d'accord, mais il y a eu beaucoup de morts. C'est vrai, il y a eu des morts. Il y a eu presque 1 million de morts. Mais aussi à cause de l'attitude de l'Angleterre, qui ne voulait pas faire la paix avec la France. Et il a fait moins de morts que la Troisième République avec la guerre de 14-18. Voilà, qui fait 1 500 000 morts. Et quand j'ai lu beaucoup les récits des généraux, des colonels de cette époque, ils gardent un souvenir merveilleux. Pour eux, c'est la plus belle époque de leur vie, même s'ils ont perdu une jambe ou un bras. Tandis que les gens qui ont fait la guerre de 14, qui est une guerre industrielle, eh bien, je les ai lus aussi, j'en ai lu beaucoup, Ernst Junger, Drieu La Rochelle, Monterland, eh bien, ils disent que c'est la pire période de leur vie.
À côté de cet homme donc, que vous décrivez, magnétique, absolument extraordinaire, vous faites aussi le portrait du roi Louis XVIII, qui est le souverain de l'époque, qui fait vraiment pâle figure devant, à côté de Napoléon. Vous décrivez son corps qui est difforme, qui est flasque, plein d'infirmités, de rhumatismes. C'est encore un peu à l'image du pouvoir qui est alors en place, complètement suranné.
Ce que je reproche à Louis XVIII... C'est pas tellement qu'il soit en effet un peu disgracieux, c'est qu'il n'est pas compris. Il n'a pas compris qu'on ne pouvait pas effacer Napoléon. Il fallait garder l'acquis de Napoléon, comme a fait plus tard son successeur Louis-Philippe. Louis-Philippe, il n'a pas essayé de détruire l'image de Napoléon. Tandis que Louis XVIII essaie d'effacer la Légion d'honneur, il essaie d'effacer tous les souvenirs de Napoléon, et surtout il ne veut pas lui payer la rente qu'il lui doit depuis le traité de Fontainebleau. Donc, c'est ce que je lui reproche, c'est d'être maladroit et de ne pas comprendre son époque. Il fallait, à ce moment-là, c'est pas la monarchie, parce qu'après tout, bon, d'une certaine façon, Napoléon, c'est une monarchie. Et je veux pas opposer le système, la République, la monarchie, tout peut se concevoir. Et tout a existé en France. Mais pour cet homme très intelligent, il est très maladroit et il manque complètement d'astuces politiques.
Et au-delà de cette analyse politique, j'en reviens à cette description des corps, alors des corps qui sont très vieux et puis des corps qui sont très jeunes. Je me demandais s'il n'y avait pas eu une réflexion de votre part autour de la vieillesse, du temps qui passe. On sent une pointe de nostalgie presque. Alors peut-être que c'est moi qui extrapole.
Non, parce que la littérature, pour moi, c'est la vie. C'est la vie. Et la vie, c'est quoi ? C'est des gens vieux, des gens jeunes. Alors quelquefois, des gens vieux avec des gens jeunes comme Talleyrand et la Duchesse de Dino. Mais c'est cette variété merveilleuse de la vie. Et moi, je dois vous dire, j'adore la vie. J'adore la vie, et il me semble que la littérature est faite pour la faire aimer. Et en plus, le roman, aujourd'hui, devient de plus en plus abstrait. On a l'impression que les gens étudient des personnages qui sont des personnages qui sont irréels, qui n'existent pas, qui sont évanescents. Non, moi, j'aime décrire, c'est peut-être pour ça que je suis de la vieille école, j'aime décrire les gens, essayer de montrer leur aspect physique, leurs infirmités ou leurs qualités. Il me semble que dans un roman, on n'est pas dans la réalité, on est dans une réalité recréée par quelqu'un qui espère être un artiste et qui donne le sentiment de la vie.
Alors, vous aimez décrire les hommes, les femmes. On retrouve aussi beaucoup de paysages dans votre livre. Alors, en plus, on est situé vraiment dans une pépite de la Méditerranée. On a d'un côté les côtes italiennes, les montagnes de la Corse, le rocher de Monte-Cristo qu'on aperçoit. Et au milieu, donc, cette île, l'île d'Elbe, qui est toscane. C'est un cadre qui fait vraiment rêver. Encore une fois, un cadre très romanesque que vous adorez beaucoup.
Oui. Mais parce que, vous savez, pourquoi se priver de décrire des choses agréables ? Parce que je décris des choses un peu désagréables, qui est le malheur amoureux du pauvre colonel Campbell, qui voit sa maîtresse le tromper, qui ne répond pas à ses appels, qui lui pose des lapins, vous voyez ? Toutes les horreurs que les femmes sont capables de commettre. Enfin, certaines héroïnes.
Et les hommes aussi sont capables. Les hommes aussi.
Mais enfin, là, il s'agit d'une femme, et une femme fatale. L'exemple d'homme fatal, ça existe beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il n'y a pas l'équivalent pour l'homme fatal, pour la femme fatale. Mais disons, il y a des souffrances, mais aussi, il y a la beauté des paysages, il y a le charme, les parfums. Je crois que c'est ce qui est merveilleux dans le roman, c'est d'essayer de prendre des éléments de la vie, des éléments qui ensorcellent dans la vie. Parce qu'il y a de la magie de la réalité.
Vous parlez de magie, mais finalement, est-ce qu'elle était vraiment spontanée, cette histoire d'amour entre la comtesse et Minetti?
Alors, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que, mais on peut toujours se la poser, toujours, vous savez. Toujours quand une femme tombe dans vos bras, on ne sait jamais. Ça peut être à la fois parce qu'elle peut avoir un intérêt derrière, ou bien ça peut être complètement désintéressé. On ne sait. L'amour est tellement complexe. C'est vraiment des ingrédients qui rentrent dans la passion amoureuse, qui peuvent changer d'ailleurs.
Mais Napoléon aurait pu être derrière cette histoire d'amour?
Bien sûr, mais il aurait pu y avoir plusieurs personnes derrière cette comtesse pour la manipuler, si je puis dire. Et en effet, ça aurait pu être les Napoléoniens, ça aurait pu être Murat, ça aurait pu être le pape, une foule de gens, et même les Anglais. Parce que quelquefois, il y a eu même, on a dit que si Campbell n'était pas là, c'était volontairement pour les Anglais, pour pousser Napoléon à la faute. Enfin voilà. Et ça, c'est formidable pour le romancier, parce que vous avez toutes les hypothèses possibles, et pour le lecteur, vous avez le mystère. Et dans un roman, le mystère est très important. On ne peut pas tout révéler. Il faut que le livre refermé, le lecteur fasse une méditation. Il se dit, tiens, au fond, ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a été réel? Vous voyez, je crois très important que le lecteur collabore, parce qu'il n'est pas complètement satisfait. Il lui manque un certain nombre d'éléments.
Et ce qui est certain, c'est que cette histoire entraînera l'imagination du lecteur très très loin. Pour cette histoire, vous êtes basé sur des faits historiques. On trouve beaucoup de références, de figures, Napoléon évidemment, Talleyrand, Murat. Bref, c'est une période historique que vous connaissez sur le bout des doigts. Une période qui vous passionne, qui inspire du monde, des écrivains comme vous, des réalisateurs aussi. Alors peut-être que vous voyez où je veux en venir. On a beaucoup entendu parler du dernier film de Ridley Scott ces derniers mois, alors qui lui prend beaucoup de largesse avec la vérité historique. Vous l'avez vu ce film?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bien sûr, moi je suis moins sévère que les historiens professionnels qui sont furieux de voir qu'il... On dit qu'il va rejoindre Joséphine alors qu'elle est morte. Bon, bref, il y a des erreurs. Et puis, les scènes d'amour qui sont un peu ridicules. C'est pour ça que je préférais éviter de faire les scènes d'amour ridicules.
Restez dans la suggestion.
Elles sont, voilà. Mais malgré tout, c'est un film qui se laisse voir. On le voit parce qu'il y a du mouvement, il y a des batailles qui sont très bien réussies. Voilà. Mais ce qui est important, c'est au fond de parler de Napoléon. Moi, je trouve que le fait d'avoir fait un film sur lui, ça a fait réagir les gens. Beaucoup de gens ont réagi. Beaucoup de gens se sont penchés, et je crois que même c'est dans, comme dégâts collatéraux, ils ont intéressé à mon livre. Parce qu'ils se sont dit vraiment qu'il y a des erreurs. Dans tous les cas, je trouve ça toujours positif de parler de Napoléon, parce que ça vous entraîne vers la grandeur. Voilà. Avec Napoléon, il n'y a jamais rien de médiocre.
Et les gens achètent, après avoir lu votre livre ou être allés au cinéma, achètent des biographies sur Napoléon, les vendent, sont en train de
y
monter.
Y compris le mémorial de Sainte-Hélène, qui est absolument sublime.
La biographie de Napoléon, écrite par Lascaz.
Voilà.
Un grand merci, Jean-Marie Roir. On recommande ce dernier livre, La maîtresse italienne, paru aux éditions Gallimard. Il me semble que vous avez une autre actualité aussi à venir. Peut-être que vous pouvez nous en parler.
Toujours dans l'amour, la rencontre de l'amour, de la passion amoureuse et de l'histoire. C'est une pièce de théâtre sur la guerre d'Indochine qui s'appelle Le Bar de l'Oriental, qui va être proposée au Théâtre Montparnasse à partir du 7 février. C'est autour d'une maison, la passion d'une femme pour une maison en Indochine, à Lang Son. Et tout autour, c'est à travers cette passion, il y a la passion pour son père et en même temps la passion amoureuse et tous ces déchirements qui ont eu lieu autour de la décolonisation de ce pays merveilleux qu'est l'Indochine.
On mettra toutes les informations pour s'inscrire, prendre des places sur la page de l'émission. Merci beaucoup, Jean-Marie Roir.
Canal Académie.